Vous écoutez On lit pour vous.
Vision sur l'art œuvre à faire reconnaître les talents artistiques des personnes en situation de handicap. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167 de la revue Paraquad. Alors que Kéroul vise à l'accessibilité des lieux culturels, la corporation à but non lucratif, Vision sur l'art, cherche à promouvoir le développement de la créativité et des talents artistiques, toutes disciplines confondues, pour les personnes en situation de handicap. Et cela, dans le but de permettre aux artistes de prendre une place pleine et entière dans le paysage culturel québécois. Au moment de la création de Vision sur l'art en 1993, sa fondatrice travaillait dans un centre de réadaptation. C'est en voyant à quel point l'art pouvait transformer un individu et permettre à une personne de se découvrir des talents que l'intérêt d'une telle corporation est né. Citation. « J'ai l'intuition que l'art transcende les limites humaines. Je me souviens d'ateliers d'art dramatique donnés au Centre Lucie Bruneau. Les parents d'une participante ont dit qu'elle était sortie du gouffre du silence après 2 ans sans s'exprimer. Sans parler du terme « thérapie », je dirais que l'art est thérapeutique. La plus grande médicalisation de la déficience physique fait qu'on traite la maladie en tassant l'aspect émotionnel de l'individu. Il faut laisser la personne exprimer ses émotions. C'est ce que l'art permet. Il y a des études qui montrent que la pratique de l'art est profitable pour une personne en situation de handicap. Alors, pourquoi on n'investit pas plus? Je ne sais pas. » Fin de citation, affirme Marie-France Marcil, présidente du conseil d'administration de Vision sur l'art depuis 20 ans. Le Québec est en retard. Vision sur l'art a été créée avant même le Conseil des arts et des lettres du Québec. Citation, « Il y a 30 ans, le Québec était à l'avant-garde. Maintenant, il a bien reculé à cause de la bureaucratie. Le Québec investit 2 fois plus dans la culture que les autres provinces, mais on est très en retard dans l'inclusion. Il y a une idéologie, mais rien de concret. Il est difficile de se faire reconnaître par le ministère de la Culture qui est complètement déconnecté des enjeux que connaissent les artistes. Le système empêche les personnes en situation de handicap d'accéder aux subventions sans perdre leurs revenus. Il y a des exceptions pour les athlètes paralympiques, mais pas pour les artistes. Il reste beaucoup de batailles à mener. » Fin de citation, dénonce Marie-France Marcil. La présidente du conseil d'administration de Vision sur l'art a vu plusieurs artistes ne pas avoir la carrière qu'ils méritaient à cause des difficultés qu'ils avaient à trouver une galerie accessible, par exemple, mais aussi à cause des risques de suspension de leurs revenus. Citation, « Une de nos membres est inapte au marché du travail et vit des prestations de la sécurité du revenu. Il lui est alors impossible de récolter de l'argent en vendant ses œuvres, ce qui lui permettrait de financer son matériel d'art. J'ai côtoyé des artistes talentueux qui sont restés dans l'ombre, même si certains, peu, sortent du lot et voient leur carrière lancée, comme Marvin Clairvaux, qui va donner un atelier à l'université d'été. » Fin de citation. Avec ses faibles moyens et malgré les résistances qu'elle rencontre, Vision sur l'art continue d'exister et croit en son mandat. Les artistes choisissent de porter la corporation à bout de bras car ils y trouvent un lieu de rencontre et de regroupement. Ils ont créé une communauté solidaire où chacun partage les enjeux d'une différence physique, sensorielle ou neurologique. Ils forment une famille unie et soudée par l'amour de l'art. Tous ses membres éprouvent ce besoin essentiel de vivre en pratiquant à fond leur discipline artistique. C'était « Vision sur l'art, œuvre à faire reconnaître les talents artistiques des personnes en situation de handicap », un texte d'Aline Van Compernol, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167 de la revue Paraquad.
Chienne, vermine. Ruba Gazal dénonce la violence qui vise les femmes publiques. Un texte de Marie-Michèle Sioui, paru le 28 novembre 2025 dans Le Devoir. Dans une vidéo où elle lit des messages d'insultes qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux, la députée solidaire Huba Ghazal dénonce la violence dont les femmes sont la cible. En entrevue, elle prend aussi la défense de la présidente de la Fédération des travailleurs du Québec, FTQ, Magali Picard, visée selon elle par des propos plus acerbes en raison de son genre. « On ne dira pas à un homme « je vais t'enculer », a lancé le 28 novembre 2025 la chef parlementaire de Québec solidaire dans un entretien avec Le Devoir. Son propos reprend le ton des pires insultes qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qu'elle qualifie de « poubelle ».« Tu vas être slack de la plotte, appelle le crémeineux que je vais te perpétrer », lit-elle dans une vidéo qu'elle a mise en ligne. Devant la caméra, la députée poursuit sa lecture. « J'espère qu'elle va se faire enculer puis ça presse. Si elle n'est pas contente, qu'elle y aille dans sa crise de bande de Gaza, calice de chienne, vermine d'islamistes. Faites donc des bébés au lieu de jouer à la germaine. Laissez les hommes prendre leur place », rapporte-t-elle. J'en reçois des pires que ça. « Des criminels », souligne l'élu, qui a déjà contacté la police en raison des messages qu'elle a reçus. Madame Ghazal se dit le plus souvent ciblée pour trois raisons. Dans l'ordre, parce qu'elle parle d'enjeux féministes, parce qu'elle est une femme issue de l'immigration et parce qu'elle se prononce sur le conflit israélo-palestinien. Elle précise qu'elle n'a aucun problème avec les critiques qui portent sur ses politiques ou sur son ton. Elle a pris la parole, dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, pour montrer la réalité et ne pas la banaliser. Il ne faut pas s'habituer à cette violence-là parce qu'elle est en ligne, affirme Mme Ghazal. On ne l'accepte pas dans la réalité, alors pourquoi on la recevrait en ligne? Le message de Mme Ghazal a été relayé par Yasmine Abdefadel, une ex-attachée de presse du Parti libéral du Québec, qui tient maintenant une chronique dans les médias de Québécois. Parce que oui, ces messages existent. On les reçoit. Ils sont violents. Personne, absolument personne, ne mérite de recevoir ce genre de messages. Personne, a-t-elle notamment écrit. Magali Picard, pire parce que femme. De passage à l'Assemblée nationale cette semaine, la présidente de la FTQ, Magali Picard, a refusé de serrer la main du ministre du Travail, Jean Boulet, qui pilote une réforme touchant notamment aux cotisations syndicales. Elle a, entre autres, affirmé que le ministre était innocent ou faisait l'innocent. Depuis, Mme Picard fait face à un torrent de critiques. Sont-elles pires parce qu'elle est une femme? « Moi, j'en suis convaincu, » répond Mme Ghazal. « Les hommes aussi en reçoivent, mais quand c'est une femme, c'est toujours pire parce qu'on va les attaquer comme femmes, » affirme la députée. Elle remarque que les commentaires visant les femmes sont plus personnels et davantage axés sur la sexualité. La députée refuse cependant de se prononcer sur l'attitude ou les propos de Mme Picard à l'égard du ministre Boulet, en affirmant que là n'est pas le but de l'entrevue. Le gouvernement est quand même en train de brimer des droits fondamentaux, et ça c'est le barreau du Québec qui le dit, répond-elle. Restons sur le fond. Je trouve que d'aller sur la forme, c'est de dévier le débat, dit-elle au sujet des gestes de Mme Picard. En mêlée de presse, le 26 novembre 2025, son collègue député Alexandre Leduc a dit comprendre la colère des syndicats, mais a ajouté qu'il n'aurait pas utilisé la formulation choisie par la présidente de la FTQ. C'était « Chienne vermine, Huba Ghazal dénonce la violence qui vise les femmes publiques », un texte de Marie-Michèle Sioui, paru le 28 novembre 2025 dans Le Devoir.
ICE ou le colonialisme qui porte un badge. Un texte d'Isabelle Picard, publié le 20 janvier 2026 dans La Presse. Il fallait bien que j'aborde le sujet. Honnêtement, ça me tentait plus ou moins. Pas par lâcheté ni par manque de courage, mais plutôt parce que je ne peux pas croire qu'on en soit encore là. Et pour vous dire la vérité, ça m'enrage. Je déteste ce qui se passe au sud de notre frontière. La violence, la peur, les coups, les balles, les arrestations basées sur la seule couleur de la peau d'une personne. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, au fond. Des années de lutte, de manifestations, de sueur et de sang versé pour enfin aboutir à des droits de la personne plus juste, toutes passées au hachoir. Jeudi soir, mon fils de 21 ans m'a contacté, tout heureux de me dire qu'il avait mis la main sur des billets pour le show de Bruno Mars en septembre à Boston. J'aurais dû me réjouir pour lui. Mon cœur s'est plutôt serré. Noah a l'habitude de traverser la frontière avec seule sa carte de statut d'Indien. C'est comme ça que ça s'appelle. Je ne peux pas en changer le nom. Parce que pour lui, c'est une façon d'affirmer son identité autochtone et que c'est tout à fait légal, même si c'est peu connu. Là, je lui ai lancé « OK, mais avec ton passeport cette fois. Pour ce week-end-là, tu oublies que tu es Mohawk et Wendat. Tu l'oublies, OK? » « Je sais, maman, » s'est-il contenté de répondre. Heureusement, mon fils a, tout comme moi, une passe blanche. Une passe blanche, c'est quand on est autochtone. Mais ça ne paraît pas nécessairement au premier regard. Même chose pour mon autre fils. Mais leur père, lui, ne l'a pas, cette fameuse passe. Il fallait que je l'appelle, et tout de suite. Quoi? C'est moi. Rassure-moi, tu ne penses pas te rendre aux États-Unis dans les prochains mois, hein? Che, con, jamais. Pas question. No way. Never. À noter que j'ai volontairement omis certains gros mots pour ne pas alourdir le texte, mais il y en avait quelques-uns à insérer à votre guise. Good. Ce ne serait pas une très bonne idée, je crois. Me voilà rassurée. Quelques heures plus tard, lors d'un souper dans ma communauté, même chose. On a relevé qui, autour de la table, prenait un risque en se rendant aux États-Unis à cause de la couleur de sa peau. Une conversation complètement surréaliste. En fait, peut-être pas si surréaliste. C'est ce qu'on appelle l'Indian Telegraph. La communication entre autochtones fonctionne très bien d'un pays à l'autre. Nous avions tous eu vent d'arrestations effectuées par l'agence ICE auprès de membres reconnus de différentes nations autochtones des États-Unis, et ce, depuis plusieurs semaines. D'abord, des rumeurs ténues. Un incident isolé. Une méprise, se disait-on. Il est vrai que plusieurs d'entre nous sont régulièrement confondus avec des personnes issues des communautés latinas et que nous savons que l'ICE cible malheureusement ces communautés d'abord, les terrorise même. Mais en novembre, l'altercation de l'actrice de Last of Us, Elaine Miles, de la nation Cayuse, est parvenue jusqu'à nous. Elaine marchait près d'un arrêt d'autobus dans la ville de Redmond, dans l'État de Washington, quand l'ICE l'a interpellée. Quatre gars cagoulés et menaçants l'ont entourée. Elle leur a montré ses papiers, ceux qui prouvent son statut d'autochtone. Ils lui ont dit qu'ils avaient l'air faux et les ont refusés. Ils ont tenté de lui prendre son téléphone au moment où l'actrice a décidé d'appeler son conseil de bande pour obtenir de l'aide. Finalement, ils ont lâché prise. C'est qu'Elaine est aussi militante et forte en bouche. Elle connaît ses droits et sait quoi dire. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Lice dément toute l'affaire. Bien sûr. Puis, la rumeur s'est intensifiée. Quelques images, des cris, des arrestations chez les Navajos, les Lakotas. Ailleurs aussi. Une, deux, huit, puis 12. Un des cas les plus marquants, celui de 4 hommes de la nation Oglala Sioux, arrêtés au début de janvier, interpellés dans un camp pour personnes en situation d'itinérance à Minneapolis, puis escortés vers un établissement de Lice. Trois d'entre eux, du moins un. L'établissement en question, Fort Snelling, son ancienne version en tout cas, a servi pendant la guerre Dakota-États-Unis de 1862 et les historiens le décrivent comme un camp de concentration pour les non-combattants, principalement des femmes, des enfants et des aînés Lakota. Ironique, non? À ce stade, je ne suis plus certaine de rien. Au moment où j'écris ces lignes, impossible de retrouver les trois hommes. Nulle part. Personne. Dans un message sur les réseaux sociaux la semaine dernière, le président de la nation Oglala Sioux, Frank Starr, a stipulé que lors de la recherche de réponses concernant les arrestations de ces hommes auprès des autorités concernées, on lui aurait dit qu'il ne serait pas possible d'avoir des informations sur ce qui se passe avec les trois détenus, sauf si la nation signait avec eux un accord d'immigration. Or, quelques jours plus tard, Starr dit avoir été mal interprété. L'histoire reste à suivre. Dans tout cet orage, il y a ces grands-mères qui, elles aussi interpellées par Lice, ont lancé haut et fort devant la caméra de leur téléphone qu'elles sont les premières, les « first ones », en ajoutant que ce ne sont pas elles qui ont traversé la frontière, mais la frontière qui les a traversées. Je trouve ça brillant et juste. Puis, en Arizona, un Navajo, Peter Yadzi, s'est fait arrêter à une station-service à côté de son auto. Tous ses documents d'identité sont dans le véhicule. Les agents de Lice s'en foutent. Ils l'ont embarqué et l'ont détenu plusieurs heures. Et la cousine du chroniqueur et animateur Abenaki, Xavier Watso, Sophie Watso, heureusement relâchée depuis, a aussi vécu ça. Et d'autres encore, et encore. La situation est si tendue à l'heure où l'on se parle que plusieurs conseils de bande ont lancé à l'égard de leurs membres des avis sur la marche à suivre en cas d'interpellation ou d'arrestation par les agents de Lice. L'équivalent autochtone en 2026 de « Mets tes mains sur le volant si tu te fais arrêter ». Ça me brise le cœur. Tout cet exercice n'est pas une question de justice ou de sécurité. C'est une question de pouvoir, de contrôle, de race supérieure à d'autres et, surtout, de couleur de peau. Du colonialisme 2.0. C'était ICE ou le colonialisme qui porte un badge. Un texte d'Isabelle Picard, publié le 20 janvier 2026 dans La Presse.
Le quartier Petit Champlain devenu grand. Un texte de Dave Noël paru le 12 novembre 2025 dans Le Devoir. Le 12 novembre 1985, les artisans de la rue du Petit-Champlain à Québec formaient une coopérative pour empêcher le rachat de leur commerce par des investisseurs américains. 40 ans plus tard, que reste-t-il de l'esprit des lieux dans cette artère du 17e siècle inondée de touristes? Alain Flamand est le dernier membre fondateur actif de la coopérative du quartier Petit-Champlain. Les autres sont morts ou sont devenus trop vieux, lance le sculpteur coiffé d'un béret noir. Quand j'ai ouvert ma boutique en 1981, j'étais le plus jeune, je venais d'avoir 23 ans. L'artisan entouré de ses sculptures d'animaux a bien connu Gérard Paris et Jacques de Blois, qui ont acquis les immeubles délabrés du secteur pour les restaurer entre 1976 et 1985. Le duo avait misé sur le recyclage des matériaux d'origine et le respect de l'enveloppe des bâtiments, à l'inverse du quartier voisin de Place Royale, que l'État québécois a remodelé à grands frais à la même époque pour lui redonner un aspect authentique du 18e siècle. Attirés par les loyers abordables, des artisans issus du faubourg Saint-Jean-Baptiste se sont installés au pied des falaises du Cap Diamant, sous la terrasse Dufresne. Ils se sont amalgamés à la poignée de résidents formant le reliquat d'un univers maritime englouti par l'exode automobile des années 1960. Ils étaient très simples, se souvient Alain Flamand. La vie était simple ici. Le quartier était sombre, abandonné avant les rénovations. Unique. Gérard Paris et Jacques de Blois ont cédé leurs immeubles à leurs locataires artisans, réunis en coopérative en 1985. Ils sont partis avec un pincement au cœur, relate Alain Flamand. Ils étaient malades et c'était devenu trop gros pour eux. La coopérative compte aujourd'hui 29 immeubles, dont le théâtre Petit Champlain. On n'en connaît pas d'autres en Amérique du Nord, des coopératives de commerçants propriétaires d'une rue comme ici ou d'un centre commercial, explique son directeur général Charles Demers. Lorsqu'un local se libère, le conseil d'administration sélectionne un commerce offrant des produits québécois en accord avec l'esprit des fondateurs. Si la coopérative n'était pas là, le quartier ne serait pas comme il est, avance Alain Flamand. Les figurines de l'univers Marvel proposées dans la vitrine de l'un des rares bâtiments de la rue n'appartenant pas à la coop semblent confirmer cette hypothèse. Certains commerces du Petit Champlain ont pris de l'ampleur. C'est le cas du restaurant Cochon d'Ingue, qui est devenu une chaîne. On a des membres qui ont grossi et qui ne seraient pas nécessairement acceptés aujourd'hui, reconnaît Charles Demers en évoquant un droit acquis que l'on trouve également dans les coopératives d'habitation. Habitat. La coopérative du Petit Champlain loue une quarantaine d'appartements aux étages supérieurs de ses immeubles. Ses occupants ne sont toutefois pas membres de la coop, à moins d'être également propriétaires de l'un de ses commerces. Quand un logement se libère, on tente d'ajuster le prix au marché, explique Charles Demers. Mais il y a un seuil qui a été demandé par le conseil d'administration pour éviter de mettre des gens à la rue avec une augmentation trop importante. C'est par une simple annonce sur les réseaux sociaux que Raymond Gagné a découvert le loft qu'il occupe depuis 8 ans dans ce qui était autrefois le Perfection Corset, une manufacture de lingerie féminine active entre 1922 et 1970. Son logement offre une vue panoramique sur le Saint-Laurent jusqu'à la pointe de l'île d'Orléans. « Quand on arrive ici, c'est la tranquillité, dit-il. Les touristes ne nous dérangent pas. C'était la foule qu'on voulait. Le résident du Petit Champlain déplore cependant le manque de relations avec le voisinage. C'est une coopérative commerciale, tout le monde fait son affaire, constate Raymond Gagné. Quand on est arrivé, on pensait que ce serait comme dans une coopérative d'habitation. Mais ce n'est pas ça. L'effervescence des débuts, immortalisée dans le documentaire « Le grand rêve du Petit Champlain » en 2016, s'est estompée avec le départ des fondateurs de la coop. Pour moi, le rêve de redonner vie au secteur est toujours existant, mais il serait encore plus beau avec de jeunes familles, lance Charles Demers en déplorant le manque de services. Expansion. La coopérative du Petit Champlain pourrait en principe acquérir des bâtiments un peu partout dans la ville. Son ambition se limite toutefois à son périmètre naturel, se terminant aux abords des maisons de la place Royale qui appartiennent à la Société de développement des entreprises culturelles. En 2019, la coopérative a manifesté son intérêt pour la maison Chevalier, un vaste bâtiment patrimonial du 18e siècle remodelé dans les années 1950. L'immeuble qui relevait du Musée de la civilisation de Québec a finalement été vendu à une filiale du groupe Tanguay en 2021 pour 2,2 millions de dollars. Je ne suis pas certain que la coopérative aurait été en mesure d'en faire l'acquisition sans un soutien financier important, note Charles Demers, en revenant sur cette privatisation qui a fait grand bruit. Le marché du Vieux-Québec est en surchauffe. Il n'est plus possible d'acheter 8 immeubles pour 85 000 $ comme ce fut le cas lors du lancement du projet de Gérard Paris et de Jacques de Blois en 1976. Charles Demers a néanmoins le regard tourné vers les bâtiments bordant le côté ouest de l'iconique escalier casse-cou qui mène à la côte de la montagne. S'il y a quelque chose à vendre, on va en faire l'analyse, dit-il. Le directeur général connaît bien ces immeubles puisqu'il y a travaillé comme serveur au milieu des années 1980. Comme plusieurs, je ne savais pas à l'époque qu'il y avait une coopérative derrière les commerces du Petit Champlain, avoue Charles Demers. C'est justement ce qu'on veut faire savoir dans le cadre du 40e anniversaire. Une coopérative, ce n'est pas sexy, mais ça a permis de préserver un bien commun au fil des années. C'était « Le quartier Petit Champlain devenu grand », un texte de Dave Noël paru le 12 novembre 2025 dans Le Devoir.